un texte que vous connaissez très certainement. Un texte que l'on cite, que l'on connaît même par cœur, pour certains. Mais c'est bien de le connaître. Je vous dirais, parfois on peut s'en servir pour parler à un frère, à une sœur aussi. Mais je dirais, vaut mieux le dire avec modération et avec une certaine délicatesse. Parce que quand on vit ce texte, c'est tout autre chose. Vous êtes prêts ? Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas de problème si on le lit comme ça, tranquille. Mais c'est quand on s'arrête sur toutes choses concourent. Si vous avez une augmentation de votre patron, merci Seigneur, alléluia! T'as touché mon patron! J'espère que vous ne priez pas simplement parce que le patron vous a augmenté, que vous priez pour lui aussi, même si peut-être parfois désagréable. C'est selon la parole, hein. Il faut prier ce... Voilà, même le chef de service. Bon. Mais quand on vit des choses qui sont compliquées, des périodes difficiles, et ici, il n'est pas question de rentrer dans une psychologie positive. Un certain humoriste, Danny Boom, il a un sketch où il dit « Tout va bien, comment il dit ?»« Je vais bien, tout va bien. » Puis il fait comme ça « Je vais bien, tout va bien. » L'essai de faire la psychologie positive. Il n'est pas question de rentrer dans ça, mes frères et sœurs. Parce que souvent, il arrive que nous pouvons vivre certaines choses compliquées, des échecs, tout simplement parce que c'est un manque de sérieux de notre part. Aussi. Une négligence. Aussi. Et puis parfois, c'est voulu de Dieu. Certaines choses. Pas la négligence, pas le manque de sérieux de notre part. Mais certaines situations que l'on peut rencontrer sont voulues de Dieu pour nous former. Les échecs que nous pouvons vivre sont, pour la plupart du temps, très mal vécus. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais je pense qu'on n'est pas trop conditionné pour vivre des échecs. Vous aimez vivre des échecs ? Oh, je me suis loupé ! Yes ! Super ! Oh, je suis content ! Ça fait mal ! Non. Parce que les échecs, c'est souvent humiliant, déstabilisant, décourageant et parfois même répétitif. Et quand on vit des choses, des situations comme celle-ci, quand on s'entend dire « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » et là, je mets à part nos négligences, nos erreurs, nos désobéissances, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Nous sommes responsables. Mais quand Dieu permet certaines choses, un licenciement, une analyse de sang pas brillante, enfin, on pourrait les multiplier, il faut accepter le tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Henry Ford a dit la chose suivante. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Pourquoi je me suis loupé, là ? Oh ! Pourquoi j'ai oublié la levure dans le gâteau ? La prochaine fois, je ferai d'une manière plus intelligente. Je mettrai tous les ingrédients devant moi, puisque j'ai un peu la tête... Moi, j'appelle ça des poètes. Vous savez, on dit quelque chose, puis les gens... « Oh, j'ai oublié !» J'appelle ça les poètes. Hein. C'est gentil, dire les poètes, pour ne pas dire « tête en l'air ». Eh bien, vous prenez les ingrédients, la prochaine fois, vous les mettez devant vous. Comme ça, vous n'oublierez pas la levure. Churchill a dit comme ça, « Agissez comme s'il était impossible d'échouer. » Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, quand on a vécu un échec et que l'on revit un deuxième échec, voire même un troisième, et souvent à partir du deuxième, on se fait lutte, on essaie de se canaliser, parce qu'on rentre dans le processus de l'échec. Et on s'est dit, j'ai loupé une fois, bon, ça peut arriver. Imaginez un jeune qui est en train de passer son permis de conduire. Tiens, je vais vous donner mon exemple. Un jour, j'ai eu envie de passer le permis de moto. Le pasteur sur la moto. C'est pas le tout d'avoir une moto. Il faut savoir la conduire. Mais avant de la conduire, il y a ce qu'on appelle, mes amis, le plateau. Ce n'est pas le plateau de fruits de mer. C'est le plateau. Une moto, souvent, va vite avec une moto. Enfin, il faut, quand on est pasteur et chrétien, ils vont doucement. Hein. Enfin, ils font attention. Hein. Mais une moto, ce n'est pas pour rouler comme ça, à deux à l'heure. Sauf qu'on vous apprend à conduire tout doucement, au ralenti, en évitant les obstacles. Et souvent, ceux qui passent le permis moto, souvent, ils ont un premier échec. Parce qu'il y a une pression. Les gars sont là, et puis là, il y a l'inspecteur. Même si vous êtes loin, il connaît les lignes blanches, tout ça, il sait vous les dépasser ou pas, hein, il a l'habitude, vous ne lui ferez pas. Hein. Il vous voit de loin, et quand il vous dit « c'est bon !», vous avez compris que vous êtes planté. Je ne vous dirai pas le nombre d'échecs que j'ai eus. Et j'en ai eu plusieurs. Et pourquoi ? Parce que je suis rentré psychologiquement dans la phase où je me préparais à me louper. Et quand on part dans l'idée qu'on va vivre un échec, eh bien, on est conditionné pour ça. Et à peu près à coup sûr, vous vous loupez. Et spirituellement, c'est pareil. Peut-être que vous êtes en lutte avec une addiction, une mauvaise habitude, ou certaines choses, et vous dites, je ne vais plus retomber dans ce genre de travers, j'ai compris. Et puis vous replongez. C'est un peu l'histoire de la femme qui a eu combien de maris ? Et celui-là, il comptait pour du beurre. Cette Samaritaine, Jésus l'attend sur la pierre, qu'on appelle ça la margelle, merci, du puits. Les disciples étaient partis, mais c'était volontaire, bien sûr. Tout est prévu avec Jésus. Jésus avait envoyé les disciples pour avoir un entretien personnel avec cette femme. Cette femme qui vivait dans l'humiliation ne voulait pas être à nouveau. Jésus ne voulait pas qu'elle soit humiliée devant les disciples. Je rappelle, cette femme alla chercher de l'eau au moment le plus chaud dans la journée, vers les midis. On va chercher l'eau le matin, de bonne heure, à la fraîche ou le soir, mais pas à midi. Vous savez comment on fait ici. On ferme les volets pour garder la fraîcheur. Et cette femme alla au puits. Et voilà qu'il y a Jésus. Et cette femme était conditionnée dans sa tête. Je vais vous expliquer pourquoi. Jésus, ils ont un entretien. Et puis Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Moi, je n'ai pas de mari. C'est vrai ce que tu dis, tu n'as pas de mari. Parce que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu en as eu 5. Oh, d'où me connais-tu ? Cette femme était habituée à vivre dans l'échec. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre ou ce qu'on pourrait imaginer, penser, je me refuse d'interpréter les échecs de cette femme comme étant une femme volage, une femme légère. Nulle part dans les Écritures, il est indiqué pourquoi cette femme a eu 5 maris. Peut-être que le premier, il est mort. Peut-être que le deuxième, il l'a trompé, il est parti. Peut-être que le quatrième, incompatibilité de caractère. « Oh, toi avec ton Dieu, je m'en vais !» Oh. Le quatrième, peut-être qu'il était alcoolique. Il disait, moi, j'en veux pas, moi. Débrouille-toi avec tes affaires. Va-t'en, je m'en vais. Je te fiche dehors. » quatrième. Et le cinquième, peut-être que lui aussi, il était un peu...
Je reviens, ma chérie, j'ai vu la voisine.
Vous comprenez que cette femme est rentrée dans un système, dans une logique d'échec. Le sixième, elle n'est pas mariée. Elle vit à la colle. Le concubinage, vous voyez que ça date de loin. Elle refuse de s'engager. Lui ou elle, d'ailleurs. Parce que j'ai peur. J'ai peur. Ce même auteur, Churchill, a dit « Il n'y a qu'une réponse à la défaite. Et c'est la victoire. Je le veux. Je ne veux plus tomber dans mes travers. Je ne veux plus, eh bien, échouer à chaque fois. » Peut-être que ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, peut-être la dixième fois que vous essayez de faire quelque chose. On dit, « Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué. Parle-moi, j'en ai marre de vivre ce que je vis. » Seigneur, fais quelque chose. Alors Oscar Wilde a dit « Visez la lune, et puis si vous la loupez, vous tomberez quand même dans les étoiles. » Ce qui fait la différence entre aujourd'hui et demain, c'est qu'aujourd'hui vous vous battez avec vous-même, vous battez avec vos petits poings, vos petits muscles, en fait pour dire avec votre tempérament. Vous n'avez pas compris qu'il fallait se décharger et d'apporter à Dieu simplement. Jésus nous a invités à être comme des enfants. Un enfant, ça sait se porter. Moi, j'ai mon petit, là, cette année, en 26. En combien ? 25 ou 26 ? En 25, oui. Je ne sais plus quelle année j'habite. Je vis. En 26, mon petit Elian, là, il va avoir 18 ans. Et je me revois avec Ruben, l'amener à l'école primaire. Et le petit, pour économiser ses petites guiboles, le mettre sur mes épaules. Allez, on y va. Maintenant, c'est bientôt eux qui vont me porter, si ça continue. Mais il ne disait pas, non, j'ai pas envie, c'est bon, je vais avoir la honte devant mes copains. Non, non, je suis un grand, je suis la maternelle, je gère. Laisse-moi faire, c'est bon. Mais tiens, mets-toi derrière, là. Non, il se laissait faire. Il ne pose pas de questions. Et puis peut-être que je lui dis, c'est pour économiser tes petites jambes, comme l'école est un peu plus loin. Là, il se laissait faire. Maintenant, il ne se laissera plus faire. Mais ça nous parle aussi. Quand on prend de la maturité, des fois, on se dit, c'est bon, je laisse faire. Et puis à un moment donné, on dit, je suis un grand maintenant. Seigneur, ça fait 20 ans que je suis converti. Ça fait 30 ans, 40 ans. Je gère. Laisse-moi faire, Seigneur, je gère. Non, non, c'est bon, je n'ai pas besoin de prier. Attends, je sais. Ce genre de situation, je les maîtrise. Je sais comment que ça se passe. Je suis sur la place. Mais vous savez, les vieux chrétiens que nous sommes, parfois nous pouvons avoir des problèmes que les jeunes chrétiens ne connaissent pas. Parce que je vais gérer, moi. Tu vas voir. Vous vous rappelez ce que David a fait lorsque... Il a fallu qu'il combatte contre les Philistins. Dans la vallée, parce que je ne vais pas noter, ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas noté. Donc, je n'ai pas la référence. Alors, il devait combattre contre les Philistins dans une vallée. Et alors, il a répondu le Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Voilà, tu passes ici, tu passes là, et voilà. » Oh, ça a marché ! Bah oui, forcément, quand tu dis quelque chose, ça marche. Il les a combattus. Mais les Philistins se sont dit, attends, tu vas voir ce qu'il va voir. On va recommencer. Les mêmes individus, enfin, pas les mêmes, parce que les autres, ils sont morts. Mais les mêmes ennemis, écoutez bien, au même endroit. David aurait pu dire, c'est bon, il recommence, c'est bon, je sais comment il faut faire, je vais repasser par là, et puis là, et puis là, et puis là, c'est paf, ça y est. Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Quand tu entendras les pas dans la cime des mûriers, ça sera le signe que tu peux y aller. Les mêmes ennemis, le même endroit, et Dieu donne des choses différentes, des axes différents. Ça s'appelle de l'humilité. Ça s'appelle marcher dans la foi comme un enfant. Vous savez, notre problème, frères et sœurs, c'est que nous sommes de grands, des grands. On sait faire. Et quand on vit des échecs, alors c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, pof ! On retombe les pieds sur terre. Oh, ça va pas, pourquoi ? Ça fait mal ! Oui, ça fait mal. Et peut-être que vous êtes sans cesse en train de retomber dans les mêmes travers, parce que justement, vous n'avez pas compris. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un piège. Un piège immense. C'est qu'à force de vivre des échecs, comme l'histoire de la moto et du plateau, à un moment donné, on se dit, j'y arriverai jamais, bon alors j'y vais. Parce qu'en plus, on y va en moto, à Vitrolles. Mais tu vois pas que je sais conduire, je sais m'arrêter, je sais passer vitesse. Oui, mais tu ne sais pas passer entre les plots comme il faut. Vous savez ce qu'il vous dit, le moniteur ? Regarde au loin. Ben non, mais je vais passer entre les plots, il faut que je regarde où je mets la roue. Regarde au loin. Parce que ton regard te conduit là où tu vas aller. Alors si t'es comme ça, ben, paf ! Que si tu regardes au loin, alors t'anticipes. Et ça marche ! Mais le problème dans l'histoire, c'est qu'avec Dieu, on se dit, mais le Seigneur, à force d'avoir des échecs, comment peut-il encore m'aimer ? Est-ce qu'il va encore m'aimer ? Est-ce qu'il a encore son regard posé sur moi ? Est-ce que j'ai encore de la valeur à ses yeux ? Est-ce que j'ai de l'importance ? Est-ce que son plan pour moi, est-ce qu'il est toujours validé ? Est-ce que j'ai toujours le privilège de le prier ? Est-ce qu'il m'entend ? Ou est-ce qu'il dit, je suis fatigué, je bouche les oreilles. Tu parles, 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 je n'entends pas. Luc 5, 8. Un personnage que vous connaissez, que nous connaissons bien, qui s'appelle Pierre, sera un homme qui va apprendre que malgré ses échecs, malgré ses loupés. Et il en fera des bêtises. Il en fera. Même l'apôtre Paul était obligé de le reprendre un jour. Parce qu'il était en train de faire les judaïsants qui venaient de Jérusalem. Alors, ils étaient là et lui, il essayait de... Et l'apôtre Paul va le reprendre devant tout le monde. Un homme qui était quelque part habitué à faire des erreurs, à vivre des échecs. Mais l'un de ses premiers contacts avec Jésus, vous voyez, il est écrit 5:5, Luc 5:5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est bien parti. Pas sur mes impressions. Ah, je sens la foi ou j'ai pas la foi. Je sens que... Ah, j'ai des frissons. Comme je l'ai dit l'autre jour, ferme ta fenêtre, t'auras pas de frissons. Ou la clim est trop forte, baisse ta clim, t'auras pas de frissons. Parce que c'est pas ça qui fait qu'on ressent la présence de Dieu. C'est pas, oh, j'ai des frissons. Oh, dimanche matin, j'ai pas eu de frissons. Par contre, le dimanche d'après, la sœur, elle a ouvert la fenêtre parce qu'il faisait trop chaud. J'ai senti la présence. Ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. C'est parce qu'il faisait frais. C'est tout. Alors, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, sur ce que tu viens de dire, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. »
C'est intéressant de voir qu'il n'est pas simplement indiqué « Pierre », mais « Simon Pierre ». C'est très intéressant. Ce « Simon Pierre » va dire « Il est à genoux ».
Il reconnaît en disant « Seigneur, je vous le dis avec mes mots, je ne suis pas digne de recevoir ce que tu es en train de me donner. Qui je suis pour que tu puisses me donner ces choses? Parce que je suis, avant d'être Pierre, je suis Simon. »
Vous savez que c'est Jésus qui a changé le Simon à Pierre. C'est Jésus qui a dit à Simon, tu t'appelleras Pierre. C'est le nom que Jésus a donné, Pierre. C'est plus Simon, c'est Pierre. Mais il y a toujours le Simon chez Pierre. Et ce Simon, parfois, eh bien, prend autorité sur le Pierre. Et ce Simon, c'est ma chair. C'est mon vieux Simon qui veut essayer de englober le Pierre. Jésus a dit, je me tourne, que personne ne se sente visé comme ça.
Tu es Simon, la première rencontre avec Jésus. Tu es Simon.
Oui, c'est moi.
Fils de Jonas. Je connais ton papa. En fait, c'est-à-dire je connais ton passé. Tu t'appelleras Pierre. Tu t'appelleras Céphas, ce qui signifie Pierre.
Ça veut dire que Jésus disait à Pierre, à Simon,
je connais ton présent, tu es le Simon.
Le Simon dans toute sa splendeur. Dans le péché, dans la colère, dans la l'impulsion, dans le désordre, dans la... Un vrai Simon.
Mais tu vois, je sais d'où tu viens. Ton passé, fils de Jonas. Mais j'ai quelque chose pour toi. Tu vas t'appeler Pierre. Parce que même si les uns et les autres, il y en a qui vivent échec après échec, vous n'en avez pas terminé. Ou plutôt, Dieu n'en a pas terminé avec vous. C'est pour ça que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Oui, mais quand je désobéis, quand je vis des échecs, j'ai l'impression que j'aime plus Dieu. Je suis un hypocrite, je suis un faux.
Rappelle-toi d'où tu viens. Est-ce que tu as donné un jour ton cœur à Dieu? C'est pour ça que le baptême, c'est quelque chose d'important. Je ne me marie pas parce que je suis célibataire. Et puis, il y a une jeune fille qui me dit, « Moi, je me marierai qu'avec un chrétien. »
Oh, bien dit.
Pasteur, je voudrais me faire baptiser.
T'es sincère?
Oh, oui.
Une fois qu'il est baptisé, allez, viens, ma chérie, hop, t'es baptisé, hop, on va plus à l'église.
C'est pas ça, un baptême. Hier, j'ai eu un gars, là, un pompier, là, qui est professionnel sur Marignane.
Il me dit, je sais pas, j'ai envie de me faire baptiser, mais bon, qu'est-ce qu'il faut que je dise?
Et puis, il m'a dit deux gros mots. J'ai dit, écoute, t'es pas encore prêt.
Mais même s'il me disait pas les deux gros mots, je savais qu'il n'était pas prêt.
Il n'est pas prêt.
Il ne s'agit pas de se faire baptiser pour... Il y a une bande de gars, là, des copains, ils sont en train de se faire... Je suis nul, je suis le dernier, allez.
Pasteur, oh oui, je voudrais me faire baptiser, pasteur. Oui.
Puis c'est rien, c'est du flan. C'est pour ça que c'est important. Parce que le jour que vous vivez des échecs, le jour que vous vivez des tensions dans votre vie spirituelle, et le jour où vous dites, mais comment... Est-ce que Dieu pourrait répondre à ma prière? Parce que si j'ai désobéi, si je suis tombé dans le péché, ou voire même si j'ai une addiction, est-ce que c'est assez une preuve d'amour pour Dieu? Ben non. Parce que je suis l'inverse de ce que Dieu me dit. C'est pour ça que c'est important de vous rappeler que le jour où vous êtes passé, tout tremblant peut-être ou pas, en disant, voilà, je vais me faire baptiser, je veux donner mon cœur à Dieu. Vous aimez le Seigneur. Et ce qui vous fait réagir, c'est parce que vous êtes en bataille entre le Simon et le Pierre.
Ça ne veut pas dire que c'est excusable.
Ça ne veut pas dire que Jésus dit, bon, c'est pas grave, allez, bon. Qui a dit ça? Ah oui, c'était, comment il s'appelle? Martin Luther, il a dit, Dieu est en deuil de l'homme parfait. Mais ce n'est pas parce qu'il est en deuil de l'homme parfait que je dois vivre dans l'imperfection. Oh, le Seigneur est même. Oh, je peux vivre en concubinage. Oh, je peux tricher sur les impôts. Enfin, je peux faire ce que je veux. Je peux regarder des choses sales à la télé. Je peux faire bien devant les copains, devant les frères et sœurs, devant le patron. Vous avez vu comme patron que je travaille bien, le patron, il l'a tourné. Bon, allez, bon, on va boire le café. Hein. Simon m'a dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Retire-toi de moi. C'est vrai qu'il n'était pas digne, moi non plus. Et puis vous non plus. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais je le sais, vous n'êtes pas digne non plus comme moi, comme Pierre, parce qu'en fait, on n'est que des humains. Et ça ne doit pas être une excuse non plus. Parce que nous avons le privilège, comme ce Simon Pierre, d'entendre, jette ton filet. Parce que je suis avec toi. Seigneur, je suis fatigué d'essayer, je n'y arrive pas. Jette. Alors, sur sa parole, faites ce qu'il vous dit. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Vous savez que c'était humiliant aussi. Le gars, il travaille toute la nuit. Sans rien prendre, c'est un pro. C'est un pro du métier. Bien sûr, il n'y avait pas les sonars. Mais enfin, quand même, ils ont des trucs. Ah, ici, souvent, ça marche. Regarde, ça frétille là-bas. L'eau, elle est... Waouh, on va y aller. Sauf que c'est un échec, échec sur échec. Alors, ne vous arrêtez pas sur votre échec, mais sur sa parole. Jetez votre filet. Vous allez dire, il le répète, tant pis, je mourrai peut-être comme ça. Dieu change les temps et les circonstances.
Voyez-vous, Pierre, c'était un homme qui était habitué à... Parce que, à vivre des échecs. Encore une fois, ce n'est pas une excuse. Nous devons lutter. L'apôtre Paul disait, « Je me traite durement
afin de ne pas pécher. »
Mais l'apôtre Pierre, « Seigneur,
j'irai en prison s'il le faut, même jusqu'à la mort pour te suivre. »
Parce que je suis sincère. Et Jésus savait qu'il était sincère. Mais Jésus savait aussi qu'il allait vivre un échec, comme Jésus savait que vous alliez vivre votre échec. Et que vous en seriez là, en train de vous dire, est-ce que l'amour de Dieu, je le mérite encore? Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. C'est une grâce. Et Dieu ne se force pas à nous aimer. Parce que Dieu est amour. Après, si vous ne voulez pas de Dieu, ça c'est votre affaire. Dieu continuera à vous aimer, mais si vous ne voulez pas de Dieu, vous irez en enfer. Parce que ça existe, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent. Et lorsque Pierre va renier le maître, il ne va pas se dire, « Oh, je me suis encore loupé, oh, j'en ai marre. Hein. Moi, c'est fini, je ne vais plus à l'église. Hein. Ça sert à quoi j'aille à l'église? Ça fait deux fois que je me loupe. » Et puis là, Jésus me l'avait dit. Il m'a dit, « Tu vas tomber. Tu vas me renier. » Alors, il me l'a dit, et en plus, je me loupe. Bon, c'est plus la peine. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il s'est laissé saisir. Il s'est laissé saisir par le regard de Jésus.
C'est ça! Il s'est laissé saisir par le regard de Jésus. Jésus, vous savez, moi, quand je ne suis pas content, bon, dans mon regard, ça se voit. Et puis les uns et les autres, on sait tous le faire voir, on sait le montrer. Fais voir quand t'es pas content. Ah ben il sourit, il rigole. Alors, qu'est-ce que... David, fais voir quand t'es pas content. Ouh, il fronce les yeux. Mmh. Il fait son méchant. Le proviseur, tu vas voir ce que tu vas prendre. Tu vas prendre des heures de colle. Mais là, Pierre, elle est confondue par quoi? Pas du style. T'as vu? Je te l'avais dit. T'as été loupé. Bon, enfin, je t'aime quand même. C'est pas comme ça. C'est pas l'amour de Jésus. C'est pas de dire, « Je suis supérieur, je vous l'avais dit. » Jésus ne montre jamais qu'il est supérieur. Il est. Je suis celui qui est. Dieu ne monte jamais en disant « Bon, hé, oh, vous arrêtez, c'est qui Dieu ? Vous faites ce que je vous dis, c'est tout !» Dieu ne fait jamais ça, vous avez remarqué qu'il ne fait jamais ça. Mais il convainc par son amour. Moi, ce qui m'a toujours bousculé chez Dieu, c'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Jamais Dieu m'a fait ça. Dieu n'a jamais pris une chicotte. Vous savez ce que c'est qu'une chicotte ? Les Africains, ils savent. Une baguette, là. Si tu dors dans les rangs, t'écoutes parce que...
Oui, oui, je suis réveillé.
Dieu ne prend pas de chicotte. Mais Dieu vient nous confondre par son amour. Et l'apôtre Pierre s'est laissé saisir par le regard de Jésus. C'est ça qui l'a bouleversé. C'est ça qui l'a troublé. En disant Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je termine. Regardez Pierre encore. Jean 13. Verset 21. Le dernier repas de Jésus. Tout le monde était à table. Vous aimez bien manger ? Moi, quand c'est moi qui fais le repas, parce que ma femme a travaillé, les enfants, ils... je dirais pas qui, mais bon, c'est le dernier. Qu'est-ce qu'on mange ? Alors ma femme dit, mon mari, il ne fait pas le repas, non, il fait à manger. Qu'est-ce qu'on mange ? Presque à la limite, ils savent ce que c'est. Allez, des pâtes ! J'améliore un petit peu dedans, des lardons, un peu de crème, et pas toujours. C'est vite fait, bien fait, mais au moins il mange, il peut repartir en ayant l'estomac plein. Mais quand on vous invite, là c'est bientôt les fêtes de fin d'année, peut-être que vous avez reçu une invitation ou vous avez invité. Et alors, on ne mange pas des pâtes. Quoi qu'on peut manger des pâtes, si vous mettez des queues de langouste dedans, j'en sais rien, enfin, ce que... C'est des pâtes de luxe. Mais là, il y a un repas. Jésus est là. Et les 12 disciples sont là. Oh, moi, j'aime bien manger. Je ne suis pas gourmand, je suis gourmet. Ce n'est pas la peine d'essayer de me scanner en disant « il a quelques kilos en trop ». Je le sais. Je fais ce qu'il faut pour. Mais il y a le repas qui est là. Alors les disciples, ils étaient là, ils étaient certainement contents. Et Jésus vient casser l'ambiance. Il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Oh, l'ambiance. Vous imaginez, repas de Noël, il y a quelqu'un qui vous dit ça ? Il y a un traître parmi nous. Alors, on imagine les disciples en train de se regarder les uns les autres pour voir un peu si comme ça... Vous laissez comme ça en train de... D'habitude, le frère ne se ronge pas les ongles ce jour-là. Un signe pour montrer qui c'est. Non, c'est pour... il est polaire. Lui non plus. Et l'apôtre Pierre, il est là. Il ne sait pas qui c'est. Et l'apôtre Pierre, walou. Il ne parle pas. L'apôtre Pierre qui ne parle pas, c'est plutôt bizarre. Il est tellement saisi en disant « C'était moi encore !» Il voit Jean qui est à côté de Jésus et nous est dit « Il va faire signe. » C'est écrit, hein ? Voilà. Simon Pierre, verset 24, lui fait signe. Alors, je reprends, verset 23. « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. » Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean ? Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » En fait, il pouvait se dire, c'est peut-être moi, parce qu'à chaque fois que Jésus dit quelque chose, ça se loupe pas, c'est tout. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc à chaque fois que Jésus dit quelque chose, C'est sûr. Ça arrive.
Eh bien, Jean, il doute de lui-même.
Qu'est-ce qu'il fait, Jean?
Ah ben, si c'est moi, ça va me tomber dessus. J'ai pas envie que ce soit moi, mais c'est peut-être moi. Eh bien, Jésus, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche. Venez écouter le cœur de Dieu battre pour vous. Vous êtes dans un échec. Vous êtes encore loupé. Approchez votre tête, votre oreille, sur la poitrine de Jésus pour écouter son cœur battre au rythme de son amour pour toi. Parce que Dieu t'aime et que Dieu n'en a pas fini avec toi. Quel que soit ton loupé, reviens à la croix, dis Jésus, je te demande pardon d'un cœur sincère et vrai. Et Dieu pardonne. Dieu restaure, Dieu rétablit. Et Dieu donne un nouveau départ. Alors on va prier. Je vous invite à fermer vos yeux. On va faire un appel simple. Cet appel est en lien avec ce qui a été dit ce matin. Peut-être que vous devenez un habitué des échecs.